franceinter.fr.
La prochaine fois, je vous le chanterai. Philippe Meyer, mammifère omnivore. Bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes cette semaine redevables de la chanson « On » à un auditeur de Melun, Christian Prognier, qui nous recommande un titre, « Bérésina », interprété par une actrice de cinéma que vous découvrirez, que vous reconnaîtrez peut-être, je vous en laisse le plaisir. Mais ne vous intéressez pas seulement aux paroles, ne vous intéressez pas seulement à la musique, intéressez-vous aussi à tout ce qui peut être autour, c'est-à-dire notamment aux arrangements divers et aux accompagnements, parce que c'est comme pour tout, il y a des choses partielles et des choses intégrales, et là nous sommes dans le « on » intégral. Bérésina. C'est Sophie Marceau qui s'efforçait de naviguer sur la Bérésina sans couler et en arrivant à bon port. Vous aussi, faites-nous part de vos suggestions en nous écrivant. Philippe Meyer, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Ou bien, venez donc sur le site franceinter.fr. Laissez-vous guider vers la page de l'émission. Vous y trouvez la référence de tous les titres que nous diffusons, de tous ceux que nous avons diffusés, la référence du générique de début et du générique de fin de l'émission, des génériques des séquences intermédiaires. Et vous pouvez également réentendre l'émission pendant les 7 jours et les 7 nuits qui suivent sa diffusion originelle et même la télécharger en vue de l'écouter en peau de caste. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 01 56 40 26 78. Donc, nous nous promenons parmi les légumes et les fruits que la chanson célèbre. Quand la chanson le célèbre, le légume ne fait pas son fier pour autant, bien qu'il porte des noms dont il pourrait tirer vanité. Ainsi mangeons-nous des chénopodiacées, comme l'épinard, des crucifères, comme les navets, les radis ou le cresson, des solanacées comme l'aubergine, la pomme de terre ou le poivron, des labiacées, comme la ciboulette, des ombellifères, comme la carotte ou le fenouil, des liliacées, comme l'échalote, le poireau ou l'ail, des brassicacées, comme le chou des apiacées comme le céleri, des cucurbitacées comme le melon, la pastèque ou le cornichon. Le cucurbitacé ne se mouche pas du pied. Il peut se nommer potiron à turban, voire potiron couronné. Il prend des pseudonymes, courgeron, giraumont, pâtisson. Il peut, comme le chou, être de printemps, d'été ou d'automne. Il est parfois si ingénieux qu'il développe d'innombrables variétés. En 1880, le grainetier Villemorin proposait 250 variétés de choux. Le chou, ajouté Ambrose Bierce, l'auteur du Dictionnaire du Diable, le chou est un légume familier, cultivé dans les jardins potagers, et qui égale à peu près en grosseur et en sagesse la tête d'un homme.
Sur une chaise, dans un grand champ de fraises, je faisais la synthèse de la situation. Je faisais une thèse sur l'entre-parenthèse et toutes les prothèses. Imagination. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes concernées par la situation. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes cultivées pour l'alimentation. Toujours là sur ma chaise, pas toujours à mon aise, je soufflais sur les braises pour plus de conviction, espérant qu'une fraise et une autre se plaisent, qu'aucune ne se taise, qu'elle chante avec passion. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes concernées par la situation. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes cultivées pour l'alimentation. Je faisais une thèse sur l'entre-parenthèse et toutes les prothèses de l'imagination, espérant qu'une fraise et une autre se plaisent, qu'aucune ne se taise. Qu'elle chante avec passion. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes concernées par la situation. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes cultivées pour l'alimentation. Concerné par la situation.
Debout, exprimez-vous les phrases
qui êtes cultivées pour l'alimentation.
Areski Belkacem, les fraises. On avait récolté 8 millions de quintaux de choux en France aux environs de 1890. On en produit aujourd'hui moins d'un million, apprenons-nous dans l'abécédaire des légumes, paru chez Flammarion en 1997, et dont je tire l'essentiel de ma toute fraîche science légumière. Le satiriste libertaire états-unien Henry Louis Mencken écrivait « Un idéaliste, c'est quelqu'un qui, remarquant qu'une rose sent meilleur qu'un chou, conclut qu'elle fera une meilleure soupe.
Got a flip top, pack of cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping at shops. She's walking in the sunshine town, feeling very cool. But the butchers and the bakers and the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store.
Apples and oranges. Apples and oranges.
Cornering neatly, she trips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch her by the eye, then I stop and have to think what a funny thing to do, 'cause I'm feeling very big.
Apples and oranges. Apples and oranges. I love she. She loves me.
Pink Floyd, Apples and Oranges. Il faut manger du chou, nous déclarent les spécialistes du site Passeport Santé. Et en effet, dans un régime faible en calories, le chou est difficile à battre. Les efforts déployés pour le couper, l'apprêter et le mastiquer font sans doute dépenser davantage de calories que ce qu'il fournit. La consommation régulière de chou, c'est-à-dire 30 fois par mois, contribue à la prévention des maladies vasculaires et pourrait même contribuer à retarder le déclin cognitif chez les femmes. Pourquoi chez les femmes ? Parce que la femme est un mystère. L'humoriste, disait Tristan Bernard, est celui qui agace la chèvre et piétine le chou. Et le proverbe polonais ajoute « La louange et le chou ont très bon goût, mais ils font gonfler. »
La chanson que je vous interprète maintenant est une chanson qu'on chantait avant dans les Cévennes à Grenoble. Vous savez qu'avant dans les Cévennes à Grenoble, quoi, on avait une coutume là-bas, on pelait les noix. On pelait les noix après les avoir cueillies, on se rassemblait dans la vieille cuisine de ma grand-mère. Autour de la vieille table, tout le village était là vers 19h pour peler, pour péter les coquilles et les noix. Alors chacun amenait son petit marteau et son sac de noix, et en avant, on pétait les coquilles. Ça durait des heures, quoi. Allez, péter les coquilles. Et puis une fois qu'on avait pété les coquilles, je ne sais pas si vous avez déjà pelé les noix ici, mais il y a une sorte de petite pellicule chiante sur le fruit, le cerneau, sur le connerie. On était obligé de l'enlever parce qu'on devait porter le fruit pur au moulin de noisilles sec pour faire de l'huile de noix. Et avec les gros brouilleurs en pierre qui brouillaient les noix. Mais c'était vachement chiant, disons que parce que pour 200 kilos de noix, t'avais 1 centilitre d'huile. Alors on pelait, mais le travail nous faisait pas peur, il faut dire. Et puis, vers 11h le soir, une fois qu'on avait bien pelé, on passait à la veillée. On mettait les vieux dans la cheminée. Et mon grand-père montait sur le tabouret et commençait à me chanter les chansons traditionnelles folk qu'il tenait de son grand-père par tradition orale. Vous saviez qu'il n'y avait pas de magnétophone en ces temps-là. Ce grand-père, le grand-père de mon grand-père, tenait ses chansons de son grand-père à lui, qui lui-même les tenait de son grand-père, qui lui-même les tenait de Patrick Bruel. Et il y en avait une, je me souviens, ça faisait casser les noix, casser les noix, casser les noix, casser les noix. Et il y en avait une autre, ça faisait qui a les noix, qui a les noix, qui a les noix. C'est moi, et qui est les noix? C'est moi, ta gueule, Patrick, putain! C'était déjà un gros peleur de noix à l'époque, hein? Oh, on va pas faire une chanson de Patrick, on va plutôt faire une chanson moins connue que me chantait parfois mon grand-père, que j'ai recueilli moi aussi par tradition orale, et qui s'intitule Marion les filles. Marion les filles, ça traite d'un problème actuel qui est au mariage. Marion du verbe marier, les l'article pluriel, filles, on voit à peu près ce que c'est. Alors, ça se passe au mois de juin, à l'époque de la mousson. La coutume veut qu'on rassemble les jeunes filles du village, Guillerette en âge d'être mariée, à 13-14 ans, et qu'on les mette sur la place du village à 2 minutes sur des tracteurs avec des sacs de noix pilés sur la tête. Je sais pas si on le fait ici à Paris. Et de l'autre côté, on met les jeunes garçons du village, en âge d'être mariés, 39-40 ans. Et on les met sur des moutons à califourchon avec des châtaignes bouillies dans les narines, vous voyez? C'est la coutume, ça fait 2000 ans qu'on le fait. Bon, alors bon, et après, bon, finalement, bon, les filles, comme elles sont motorisées, elles partent devant, tu vois, elles partent devant, tu vois, et les garçons, ils essayent de suivre derrière sur les moutons. Et ils prennent évidemment le gasoil dans la gueule. Et c'est pour ça qu'ils ont les châtaignes bouillies dans les narines. Comme quoi, en folk, rien n'est innocent. Chaque coutume a un fondement. Et maintenant, je vais vous présenter le dulcimer. On le voit bien. Qui est un instrument typiquement folk, c'est Venol, de Grenoble, et qui se compose de 4 cordes. Alors on va essayer, comme c'est samedi soir, dans le cadre de notre stage folk, notre psychothérapie folk, de chanter les cordes du dulcimer, et ce, afin de se libérer des instincts citadins, et de refaire surgir le petit chromosome folk que l'on a au fond de nous, et que l'on n'arrive pas à exprimer à cause de la société des bagnoles et des banlieues. Vous savez que le petit bébé folk, quand il naît, pousse un cri que l'on appelle le cri primal folk, qui fait à peu près ceci. Vous l'avez poussé, mais maintenant il faut le repousser, il faut le re-extérioriser, et ce, grâce au stage folk. Alors, le but du stage étant évidemment de sortir folk. Je suis folk, tu es folk, il est folk, nous sommes folk. Admettons, quelqu'un te fait chier dans le métro, dans l'autobus, tu lui fais ni ni ni. Comment il se barre en courant, il a compris que t'étais folk. Alors, mais pour arriver à ça, ce n'est pas évident, il faut travailler beaucoup, c'est comme en toute chose. Alors attention. La première corde est un mi. Je cite la corde, vous la chantez. Attention, le mi. Au début du stage, on n'est pas trop libéré. Mais c'est normal, on ne se connaît pas bien, c'est la première fois qu'on fait le stage folk. Alors, si on a un voisin, une voisine à côté, on va essayer de se toucher un peu. Allez-y, on se touche un peu. Si on a des verrés, on les échange. Voilà, il faut que ça soit vraiment convivial. Et on fait la deuxième corde. Alors attention, la deuxième corde est un mi. Je vous en prie, l'ironie est facile. Alors attention, le mi. Bien, là vous me faites plaisir, hein? La troisième corde est un mi, grave à l'octave, la même au-dessous, mi. Bien, vous me faites plaisir, hein? Et la quatrième corde est un si. Alors il y en a qui ont déjà suivi le stage. Mais ceux-là, je leur avais déjà dit la dernière fois de ne pas se manifester, sinon ils risquaient d'être exclus du stage. Mais enfin, comme on est tolérant dans le folk, on va les garder. Alors, le si, attention, ce n'est pas la même corde, et pourquoi elle n'a pas le même nom? Sinon, on l'appellerait mi, or c'est un si. Attention. On écoute bien. Attention, c'est pas la même, elle va vous surprendre. Le si. Bien. Alors maintenant, les quatre cordes ensemble. Ni. Ni, ni. Ni, 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 ni. Avec les paroles. Ron.
Ron.
Et ron.
Et ron.
Petit patapon.
Petit patapon.
Mange le petit hérisson.
Mange le petit hérisson.
Sur le Massé Ferguson.
Sur le Massé
Ya.
Ya.
Ni.
Ni.
Noir.
Noir.
Yannick Noir.
Yannick Noir.
Attention à la batterie folk. Prakatakish. Praka katakish. Pratum, pratum kish. Prakaka, prakaka kish. Prakakish. Putain, vous avez déjà pelé les noix ici, non? Non, parce que.
Sylvain Richardot de Chansons Plus Bifluorées, peler les noix. On entend encore l'expression tremper la soupe, là où jadis on pelait les noix. C'est que ce plat de base est souvent unique. Du paysan d'autrefois consistait en une tranche de pain posée au fond de quelques écuelles et que l'on recouvrait du jus de cuisson des légumes. Les personnes plus fortunées retirèrent le pain qui fait ballonner et grossir et ne gardèrent que le suc des légumes contenus dans leur eau de cuisson. Scarron célébra ainsi ce que l'on appelait un potage. Quand on se gorge d'un potage succulent comme un consommé, si notre corps en est charmé, notre âme l'est bien davantage. Et le cher José Arthur dans ses pensées, un cheveu sur la tête c'est peu. Dans la soupe, c'est beaucoup. Et le proverbe français définit ainsi la cuisine anglaise. Si c'est froid, c'est de la soupe. Si c'est chaud, c'est de la bière.
Il n'y a plus d'amandes. Les écureuils ont tout mangé. Et les oiseaux ont ravagé. Les vignes qui s'étendent jusqu'au prochain verger. Le foin sent la lavande, ta gorge chaude l'oranger. Mes lèvres vont se mélanger à tes lèvres gourmandes. Rien ne viendra nous déranger. Le vieux moulin à vent ne battra plus les ailes. Le seau rouillé sur la margelle ne grincera plus comme avant. Les écureuils au coin du feu s'endorment. Viens, faisant comme eux. Je te fais une guirlande de fleurs des champs, de fleurs des prés. Et nos deux corps sont bien trop près, et notre faim trop grande. Ne nous faisons plus désirer. Il n'y a plus d'amandes, les écureuils ont tout mangé. Mais j'en aurai en contrebande pour t'y faire goûter sans attendre l'été.
Henri Salvador, il n'y a plus d'amande. Le peuple déjeune, la bourgeoisie dîne, la noblesse soupait, l'estomac se lève plus ou moins tard chez l'homme, selon sa distinction, les frères Goncourt.
J'avais acheté un beau concombre, ben gros, ben long, ben vert, et je revenais sans encombre du marché de Nevers. Comme je transpirais sur la route en portant mon panier, je m'arrêtais pour casser la croûte au pied d'un peuplier. Là que je déballe mes petites affaires, mon pain et mon couteau, et le bout de l'arc que j'avais d'hier, il n'était pas ben beau. Craignons que je dis, si ma patronne n'était point si rapia, J'ai là des choses qui sont ben bonnes dans mon petit panier plat. M'en voilà bientôt que je soulève le couvercle de cet engin. Rien que de voir ça, j'ai eu la sève qui me coulait sur le groin. Pour sûr, j'avais l'air d'un gendarme avec mon grand couteau, car le concombre qui voit cette arme, il éclate en sanglots. Moi, pour vous dire, je trouve ça drôle de voir ce bestiau pleurer. Mais voilà qui prend la parole et qu'il me dit sans pitié « Ma belle Susan, soyez sensible et ne m'éventrez point, car c'est écrit noir dans la Bible, faut pas tuer son prochain. » Je vous assure que d'être un concombre, c'est un sort affreux. Il n'y a rien au monde qui soit plus sombre et qui soit moins glorieux. On finit nos jours sur des tables, coupées en ch'tis morceaux, salées, poivrées, sort détestable pour l'estomac des sots. Le drame, ça vient de notre couleur verte, à faire tourner les sangs. C'est point normal, ça déconcerte, et ça fait impuissant. Vraiment, le sort est donc ben bête, et qui nous a fait verdir. Moi, j'en connais dans des braguettes qui n'ont point à pâtir. Pourtant, ils sont parfois malingres. Ils sont point lourds ni gros. Ils ont la salive un peu pingre et la peau sur les os. Ils se cachent le cul dans la broussaille et se fourrent le nez dans le noir. Et c'est pas souvent qu'ils travaillent à peine un petit peu le soir. Voilà l'histoire de ce concombre. Ben gros, ben long, ben vert, que je ramenais sans encombre du marché de nœuds verts.
Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and big
Billie Holiday, Strange Fruit. Et avant, vous aviez entendu Jean-Claude Dreyfus dans La Marche du Concombre. Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions. Un souvenir qui me fait frémir encore et rire tout à la fois est celui d'une chasse aux pommes qui me coûta cher. Ces pommes étaient au fond d'une dépense qui, par une jalousie élevée, recevait du jour de la cuisine. Un jour que j'étais seul dans la maison, je montais sur la mets pour regarder dans le jardin des Hespérides ce précieux fruit dont je ne pouvais approcher. J'allais chercher la broche pour voir si elle pourrait y atteindre. Elle était trop courte. Je l'allongeais par une autre petite broche qui servait pour le menu gibier car mon maître aimait la chasse. Je piquais plusieurs fois sans succès. Enfin, je sentis avec transport que j'amenais une pomme. Je tirais très doucement. Déjà, la pomme touchait à la jalousie. J'étais prêt à la saisir. Qui dira ma douleur ? La pomme était trop grosse. Elle ne put passer par le trou. Que d'invention ne mis-je point en usage pour la tirer. Il fallut trouver des supports pour tenir la broche en état, un couteau assez long pour fendre la pomme, une latte pour la soutenir. À force d'adresser de temps, je parvins à la partager, espérant tirer ensuite les pièces l'une après l'autre. Mais à peine furent-elles séparées qu'elles tombèrent toutes deux dans la dépense. Lecteur pitoyable, partagez mon affliction.
Peut-être pas connu dans la noblesse ou chez les snobs. Quand on veut me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur toutes les glaces et sur les ardoises des bistrots. Le tabac du coin, c'est mon palace où le soir je retrouve mes poteaux. Ma pomme, c'est moi. Je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse. En douce, je me pousse. Les hommes, je le croise, font du souci. Pourquoi ? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Je suis vraiment un type des plus nature. Oh, j'ignore le chiquet. Non, mais à rien faire, la vie est assez dure, sans se la compliquer. Je comprends pas qu'on se démanche quand on a tant besoin de repos. Il y en a qui travaillent le dimanche. Oh, alors là, je leur lève mon chapeau. Ma pomme, c'est moi. Je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse. En douce, je me pousse. Les hommes, je le croise, font du souci. Pourquoi ? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Des femmes, il m'en faut comme à tout le monde. Bon, mais je m'en embarrasse pas, hein. Quand je veux une brune ou bien une blonde, je choisis dans le temps. Comme j'ai pas de pèse, je suis à l'aise pour leur promettre tout ce qui leur plaît. Hein. Mais quand j'en pince, oh, je suis bon prince. En partant, je leur laisse mon portrait. Ma pomme, c'est moi. Je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse. En douce, je me pousse. Les hommes, je le croise, font du souci. Pourquoi ? Car pour être heureux comme ma pomme, il suffit d'être en somme aussi pénard que moi.
Maurice Chevalier, ma pomme. Jean-Jacques Rousseau toujours. Je ne perdis point courage, mais j'avais perdu beaucoup de temps. Je craignais d'être surpris, je renvoie au lendemain une tentative plus heureuse et je me remets à l'ouvrage tout aussi tranquillement que si je n'avais rien fait, sans songer aux deux témoins indiscrets qui déposaient contre moi dans la dépense. Le lendemain, retrouvant l'occasion belle, je tente un nouvel essai. Je monte sur mes tréteaux, j'allonge la broche, je l'ajuste. J'étais prêt à piquer. Malheureusement, le dragon ne dormait pas. Tout à coup, la porte de la dépense s'ouvre, mon maître en sort, croise les bras, me regarde et me dit « Courage !» La plume me tombe des mains. Bientôt, à force d'essuyer de mauvais traitements, j'y devins moins sensible. Ils me parurent enfin une sorte de compensation du vol qui me mettait en droit de le continuer. Au lieu de retourner les yeux en arrière et de regarder la punition, je les portais en avant et je regardais la vengeance. Je jugeais que me battre comme fripon, c'était m'autoriser à l'être. Je trouvais que voler et être battu allaient ensemble et constituaient en quelque sorte un état, et qu'en remplissant la partie de cet état qui dépendait de moi, je pouvais laisser le soin de l'autre à mon maître. Sur cette idée, je me mis à voler plus tranquillement qu'auparavant. Je me disais, qu'en arrivera-t-il enfin ? Je serai battu, soit je suis fait pour l'être.
Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, nous, elle est maman. J'en sais rien, viens donne-moi la main. Pour aller où ? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça ? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente. J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi ? J'en sais rien. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi ? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime ? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main.
Colette Mani, Mélocotone. Le Cynaras collimus est de la famille des Astéracées. Il est dicotylédone, par opposition ou par différenciation d'avec les monophylétiques. Il est angiosperme et les nervures de ses feuilles sont réticulées. Sa fleur présente quatre verticilles. Votre marchand de légumes vous le vend sous le nom d'artichaut. C'est un chardon domestiqué, il fut apporté par les Arabes aux Napolitains, par les Napolitains aux Florentins et par la reine Catherine de Médicis aux Français. Elle raffolait de ce légume et particulièrement des culs d'artichaut. Le chroniqueur Pierre de l'Étoile évoque un repas où se manifesta son formidable appétit à l'occasion du mariage du marquis de Loménie et de mademoiselle de Martigues. La reine-mère mangea tant qu'elle crut crever et fut malade au double de son dévoiement. On disait que c'était d'avoir trop mangé de culs d'artichaut et de crêtes et de rognons de coq dont elle était fort friande. Il n'y avait pas que les culs d'artichaut d'affolant ce jour-là, puisque, comme le dit Pierre de l'Étoile, en ce banquet, les dames les plus belles et les plus honnêtes de la cour étaient à moitié nues et avaient leurs cheveux épars comme des épousées. Elles furent employées à faire le service.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi, 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 laissez-moi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi. finir ma banane.
Philippe Catherine, la banane. Au son moelleux des archers de l'orchestre de contrebasse, voici que sonne l'heure de notre avant-dernière séquence, à deux c'est mieux, au cours de laquelle nous vous proposons deux versions à nos oreilles également aimables d'une même chanson. Celle-là est une chanson de Daniel Messia, qui sera d'ailleurs interprétée par elle. Daniel Messia est une chanteuse qui a disparu au milieu des années 80, emportée par une leucémie alors qu'elle n'avait pas encore 30 ans, et des quelques chansons qu'elle avait pu enregistrer, des quelques disques qu'elle avait pu enregistrer, aidée notamment par Gérard Piron, qui l'avait découvert dans des chœurs, alors qu'il enregistré pour lui-même, je crois, d'ailleurs des chansons de Gaston Couté qu'il avait mis en musique. Daniel Messia, donc quelques chansons, des quelques disques qu'elle a pu enregistrer, un titre émergeait, La main gauche. Or, il se trouve que La main gauche vient d'être repris par un jeune chanteur, en l'occurrence Sylvain Giraud. C'est donc d'abord Daniel Messia dans sa propre chanson, puis Sylvain Giraud que vous allez entendre dans De la main gauche.
Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui
pour trouver le droit chemin. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Mais je la mettais dans ma poche. Il a, elle, broyait du noir. Elle jouait avec les croches. Il s'inventait. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté. C'est celle qui faisait les fautes, du moins on me l'a raconté. Je m'efforçais de la perdre pour trouver le droit chemin. Une vie sans grand mystère où l'on ne se donne pas la main. Des mots dans la marge étroite, tout tremblant qui font des dessins. Je me sens si maladroit, pourtant mais je me sens bien. Tiens, voilà, c'est ma détresse. Tiens, voilà, c'est la vérité. Je n'ai jamais eu d'adresse, rien, une fausse identité. Je t'écris de la main bête qui n'a pas le poing serré. Pour la guerre, elle n'est pas prête. Pour le pouvoir, n'est pas douée. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié. C'est une vue que je recouvre pour les sentiers égarés. Tous la ligne droite, c'est plus court, oui c'est plus court, mais on voit pas qu'elle est étroite. Il n'y a plus de place pour l'amour. Moi, je voulais dire que je t'aime, sans espoir et sans regret. Je voulais dire que je t'aime, parce que ça semble vrai.
Daniel Messia. Puis Sylvain Giraud, de la main gauche de Daniel Messia. Toccade. La toccade de cette semaine est pour le dernier album d'Yves Jamais, album intitulé Saison 4 et qui est sorti il y a très peu de temps. Il est sorti le 10 octobre dernier. De cet album, nous avons extrait un titre qu'Yves Jamais chante en duo avec Zaz, La radio qui chante.
Elle regarde son réveil,
lui a perdu le sommeil.
Elle a son boulot,
lui pas trop.
Elle sort doucement du lit,
quand lui s'accroche à sa nuit, exhalant de sueur.
Elle de fleurs, elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus.
Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux.
Elle s'en va courir dehors,
lui surpris respire encore.
Elle a plein poumon,
lui goudron.
Elle prend sa vie à peine main,
lui la remet à demain. Jamais de projet,
elle en fait.
Ah, elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus. Lui, le visage mort,
d'artifice encore, de gamin trop vieux.
Elle pense que la vie est belle.
Lui la trouve trop réelle, bien trop prosaïque, trop cynique. S'il prend bien trop ses distances,
elle vit les autres comme une chance.
Lui comme un fardeau,
elle cadeau.
Elle, la radio qui chante, la joie qui les vante, malgré tous les bleus.
Lui, le visage mort, l'artifice encore, le gamin trop vieux.
Elle pense que la vie est belle. Belle, belle.
Lui, pas trop.
Elle pense que la vie est belle. Elle, belle, belle.
Lui, bobo.
Elle rentrera seule chez elle. Lui, dans sa vie qui chancelle. Peu de chance pour qu'une histoire commence.
Elle continuera donc seule. Lui fera toujours la gueule. Ces deux-là ne se croiseront pas.
Faut quand même un minimum pour construire une histoire d'amour. Ça se passera pas comme au cinéma.
Parce que elle,
la radio qui chante,
la joie qui les vante,
malgré tous les bleus.
Lui, le visage mort,
l'artifice encore,
le gamin trop vieux.
Elle,
la radio qui chante,
la joie qui les vante,
malgré tous les bleus.
Lui, le visage mort,
l'artifice encore,
le gamin trop vieux.
La radio qui chante, Yves Jamais, en duo avec Zaz, extrait de l'album Saison 4, sorti le 10 octobre. Yves Jamais, après une série de concerts aux Trois Baudets, se promène un peu partout en France, de Cancale à la Bourgogne et de Dijon au Grand Rex. C'était La prochaine fois je vous le chanterai, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Perrine Minguy, préparée avec Thierry Dupin, Mathilde Wagman et Thomas Jeannet Morando, avec à la technique aujourd'hui Julien Doumain, que vous êtes prié de vous présenter la semaine prochaine à la même heure, sur cette même chaîne.
Merci et à samedi prochain, Philippe Meyer. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, celui que nous donne Nicolas Stoufflet pour les prochains enregistrements du jeu des 1000 euros qui auront lieu en Gironde. Lundi 31 octobre à l'Esparré-Médoc, mardi 1er novembre à Sainte-Hélène, puis dans les Landes, mercredi 2 novembre à Sognac et Muret, le 3 à Dax, et dans les Pyrénées-Atlantiques, vendredi 4 novembre à Asparin et le 5 novembre, qui est un samedi, à Saint-Jean-de-Luz. Philosophe et écrivain, Cynthia Fleury sera à 13h20 l'invitée de Guillaume de Monjou. Et juste après Suspend ton vol, nous retrouverons Patrick Penaud et Rendez-vous avec X, où il sera question de Tora Bora.